Focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour à tous, nous sommes de retour dans Focus où nous rencontrons Jean-Michel Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, on va parler de ton troisième film, Vivre avec les loups. Donc on t'avait interviewé déjà pour le deuxième qui était Marche avec les loups.
Ouais, c'est ça.
Donc là, c'est la trilogie, le dernier volet. On a envie de te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le troisième volet? C'était prévu déjà dès le départ?
Non. Non, en fait, même le premier, La Vallée des loups, ça devait être le seul et unique. On est parti pour faire un film.
C'est ce que j'avais compris.
Ouais. Et en fait, ce qui se passe toujours, moi, c'est que j'accompagne beaucoup mes films dans les salles. J'aime bien les débats, j'aime bien rencontrer le public. Et ce premier film, qui était vraiment un film de quête très personnel, pour essayer de trouver, de croiser, de filmer les loups dans une vallée paumée des Hautes-Alpes, m'a conduit donc à faire beaucoup de débats avec le public et évidemment il y avait des questionnements qui ressortaient. Qu'est-ce qu'ils font ces loups? Est-ce qu'ils restent tous dans la vallée? Est-ce qu'ils deviennent pas trop nombreux à force de faire des petits et de rester là et tout? Et j'ai trouvé qu'il était vraiment important pour moi d'expliquer la dispersion des loups, comment ces jeunes loups quittent cette vallée pour partir à la recherche d'un nouveau territoire et puis aussi d'un compagnon et d'une compagne selon leur sexe. Et du coup, ça a amené ce film Marche avec les loups qui racontait l'histoire d'un jeune loup qui quittait cette vallée et qui allait se perdre dans le Jura. Et qui était donc un film, on va dire, un petit peu fictionné quand même, parce qu'il y avait un chemin parallèle entre ce jeune loup et moi. Évidemment, j'ai pas pu courir après ce petit loup pendant 2 ans, donc c'était, il y avait tout un travail de fiction et de symbolique parallèle pour raconter la dispersion, la territorialité des loups qui empiètent sur le territoire de l'autre, entre les loups et les humains. Et voilà, on commençait à se questionner aussi sur cette territorialité et sur la place qu'on voulait bien laisser aux loups. Et évidemment, ce film qui a fait pas mal de débats, où il y a eu pas mal de polémiques et tout, parce que le loup est toujours un sujet quand même assez clivant et assez sensible, a amené des tas d'autres questionnements sur la coexistence avec les éleveurs, les bergers, les chasseurs, enfin voilà. Et donc, ce troisième film s'est carrément imposé aussi à moi, et c'est comme ça que je fonctionne en fait. Il n'y a rien de prévu, et comme dit souvent Jean-Pierre Bailly, le producteur qui m'accompagne depuis le premier film, il dit, j'aurais pas cru en prendre pour autant d'années quand j'ai fait le premier film, quoi. Voilà. Ouais, on était parti pour en faire un, et là, il y en a 3. Mais, je pense que celui-ci sera le dernier film. Voilà. Il boucle cette trilogie, le dernier film, en fait, sur cette thématique des loups.
Je pense que tu l'avais pas prévu, mais maintenant tu vois que tu as un peu fait le tour du sujet, quoi.
Ouais, puis c'est bon, on n'a jamais fait le tour parce que là j'ai arrêté. Bon, le film est fini et puis je commence à l'accompagner. Mais moi, je vais toujours relever mes caméras automatiques, bivouaquer et voir mes loups. Hein, je veux dire, ça s'arrête jamais. Donc cette passion, elle est en moi et elle s'arrêtera pas. Maintenant, au niveau de ce que j'ai à dire, à raconter, au niveau du cinéma, je pense que oui, effectivement, les 3 films se tiennent et se complètent.
Voilà. Alors, tu as fait une trilogie comme Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, exactement. Mais ça a coûté un petit peu plus cher que Le Seigneur des Anneaux, mais guère plus.
Oui, mais ça se voit à l'écran, c'est ça
ouais,
qui est
c'est
bien.
C'est ça, c'est ça.
Alors, moi, j'ai compris que ta parole était totalement nouvelle pour ce troisième film, que tu voulais parler évidemment des loups qui sont partout et de la coexistence. Ça, c'est ton idée de base. Mais surtout, tu voulais des réponses concrètes.
Je suis dans le questionnement, dans l'apaisement et effectivement, alors là, pour le coup, dans la rencontre d'éleveurs, de bergers, de chasseurs, mais qui n'ont pas le discours qu'on entend un petit peu partout, c'est-à-dire un discours justement très arrêté. Donc on n'est pas avec des pro-loups, des gens qui veulent à tout prix protéger les loups, et pour être tout à fait honnête, pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, s'il n'y avait pas de loups, ça les arrangerait bien. Ouais. Mais les loups sont là, parce que ça complique quand même leur boulot, surtout au niveau évidemment de l'élevage et des bergers. Et en fait, ce que j'ai voulu soulever, c'est le dialogue, le questionnement, la complexité, mais avec une forme de bienveillance, de calme, et bien au-delà de la polémique, du côté anxiogène qu'on entend beaucoup, même aussi de la part des chasseurs qui vont dire « ça y est, les loups vont tout bouffer, il n'y aura plus rien ». et j'ai rencontré des chasseurs très apaisés qui voient le loup tel qu'il est, comme un prédateur, qui mange effectivement des ongulés sauvages et avec qui il faut partager les territoires.
Mmh. Oui, donc tu te décales de la posture polémique, ça.
Ah, total. Et puis je me décale du. Je suis pas un donneur de leçons, je suis pas un spécialiste des loups. Voilà. Je suis un passionné des loups, mais comme je te dis, il y a tellement de spécialistes autoproclamés aujourd'hui sur Internet partout. Chacun a son avis sur tout, que ça, je le fuis comme la peste. Moi, je suis pour la nuance, la complexité et surtout la bienveillance. Mmh. Voilà.
Oui, en fait, c'est une réflexion naturaliste, on peut dire, même philosophique. Ouais. Ça touche à ça.
Ouais.
Sur le défi de la coexistence de loups et humains, quoi.
Ouais, complètement.
Et surtout cette coexistence en harmonie.
Ben oui, cette coexistence entre guillemets un petit peu forcée, hein, c'est-à-dire que voilà, les loups sont là, ils sont revenus. Je raconte aussi pourquoi ils sont revenus, parce que là aussi, on entend tout et n'importe quoi, et on sait de façon clairement scientifique comment les loups sont revenus et pourquoi. Tout simplement, pour faire court, ben on était ultra présent dans les siècles passés. Il y avait énormément de monde ici et tout le monde sait. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, il n'y avait plus un arbre. Il suffit de regarder la vallée de Chaudun et les habitants qui ont vendu leur commune parce qu'ils crevaient littéralement de faim, parce qu'il y avait eu une surexploitation de la nature à cause d'une présence trop importante des humains et surtout de cette vision un petit peu verticale d'un humain qui domine tout, qui se sert tant qu'il peut. Puis le jour où il n'y a plus rien, ben il crève de faim, il s'en va. Ouais. Moi, mon grand-père, il est parti migrer aux États-Unis. Bon, il est revenu pour se battre pour la guerre de 14, ça c'est une autre histoire, parce qu'il avait peur de passer pour un déserteur, mais il est parti aux États-Unis, il crevait de faim. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait beaucoup moins de gibier à disposition pour les loups, et il y a eu une vraie volonté d'éradiquer l'animal. Du coup, l'animal a été éradiqué. Et puis après, ben, il y a eu ces vastes plans de reboisement massif de la part des eaux et forêts. Vous allez à Chaudun aujourd'hui, vous voyez la différence avec il y a 150 ans, c'est colossal. Avec la forêt sont revenus les ongulés sauvages, favorisés d'ailleurs par les plans de chasse organisés par les chasseurs, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à chasser non plus.
Ouais, ouais.
Et les chasseurs ont décidé de faire des plans de chasse avec des quotas. Donc, les ongulés sauvages sont revenus massivement. Et évidemment, les loups qui étaient protégés en Italie, qui n'ont jamais disparu du massif des Apennins, de par le phénomène de dispersion, sont revenus tranquillement coloniser les territoires desquels ils avaient été éradiqués. Ça, c'est des choses, je crois, qu'il faut quand même expliquer, le montrer par l'image. Et ne pas être dans cette espèce aussi de fantasme, les loups, bientôt c'est moi, Jean-Michel Bertrand, qui ramène des loups dans une bétaillère pour les relâcher, quoi. On est dans le délire total. Donc, faut un peu remettre l'église au milieu du village. Ça tombe bien avec RCF.
Bah oui. Mais c'est vrai qu'on cherche la bétaillère de Jean-Michel Bertrand partout.
Il y en a plein qui l'ont vu.
On va lancer un jeu pour trouver cette bétaillère.
Retrouver la bétaillère.
Alors, tu nous as fait une transition avec l'Italie. Justement, moi, j'aimerais qu'on parle ce qu'on voit dans ton troisième film, de ces éleveurs dans les Abruzzes qui ont un rapport avec le loup totalement apaisé.
Ouais. Alors, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est les Abruzzes, c'est pas l'Italie. On entend, ah ouais, en Italie, c'est super, ça se passe bien, c'est pas comme en France et tout. Non, 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 non. C'est les Abruzzes parce qu'en fait, les loups n'ont jamais disparu des Abruzzes. Il y a eu une volonté politique au début du XXe siècle, dans les années 20, de faire un parc national, de protéger les animaux et ensuite de protéger les ours et les loups d'une région dans laquelle les gens crevaient de faim aussi et partaient massivement. Ils avaient dans l'idée de sauvegarder la nature et de maintenir une activité sur place, ce qui a amené énormément de tourisme et beaucoup d'argent. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour se rendre compte que cette protection visionnaire de l'époque apporte aujourd'hui énormément d'argent à cette région pauvre d'Italie. Ils en sont bientôt au niveau de Venise. C'est colossal. Mais si vous allez ailleurs, en Italie, si vous allez en Toscane, si vous allez dans les Piémonts, eh bien, le loup avait disparu et il est revenu aussi depuis les Apennins, depuis les Abruzzes. Et là, on a les mêmes tensions qu'en France. Donc, on se rend compte qu'en fait, cette crispation autour du loup vient beaucoup du fait d'avoir coupé le lien avec lui. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu de loup pendant 50, 60, 80 ans a suffi pour que son retour crée vraiment de grandes crispations. Mais voilà, il faut pas mélanger l'Italie avec les Abruzzes. Mais ce qui se passe dans les Abruzzes aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce que non seulement ça leur apporte beaucoup d'argent, Les offices du tourisme devraient peut-être écouter ça, parce qu'ils savent plus comment faire venir des touristes avec de la neige qu'il y a de moins en moins et autres. C'est vraiment le problème des politiques aujourd'hui dans les Abruzzes, du personnel politique, des maires, etc. C'est de gérer les touristes. Mmh. C'est pas de gérer les loups, parce qu'il y a des afflux de personnes, 2 millions de visiteurs par an. Donc c'est colossal. Et aujourd'hui. On a de l'élevage, on a des éleveurs bovins, ovins. Alors évidemment, il y a des attaques de loups, mais il y a aussi des chiens de protection, les marais Mabruzzes qui n'ont jamais disparu non plus. Il y a toujours cette culture de la protection du troupeau et tout. Et le loup est pris comme une fatalité. C'est-à-dire que ben, quand il y a des attaques de loups, c'est pas drôle évidemment, mais quand il y a un orage, quand il y a une maladie, quand il y a le piétin, c'est pas drôle non plus. Et en fait, le loup est pris parmi ces problèmes-là. Il n'est pas diabolisé. Et c'est vraiment. Et puis il y a des ours aussi. Et en fait, on se des cerfs partout. Ici, je veux dire, il y a des cerfs dans les campings, dans les villages. Il y a des ours qui se baladent dans les villages, dans les abris. Aujourd'hui, faut voir la mentalité qu'on a ici en France. Aujourd'hui, vous avez un renard qui s'approche d'un village, on va le tuer. C'est la folie, c'est pas normal. Enfin voilà, on se rend compte en allant dans les Abruzzes que c'est possible. C'est juste une question de politique et de philosophie aussi, de culture. Et ça, ben ça donne beaucoup d'espoir.
Oui, donc c'est un territoire test, les Abruzzes.
Voilà, un exemple.
Tu devrais financer des cars entiers de décideurs d'ici, du 05, qui vont dans les Abruzzes, voir comment ça se passe.
Oui, ça serait bien. Et puis, le problème, c'est quand vous parlez avec les gens, les décideurs d'ici, vous dites, ouais, dans les Abruzzes, c'est des conneries. En fait, ils braconnent les loups. En fait, ceci, enfin, ils inventent plein de choses parce qu'ils n'ont pas vu. Alors, évidemment, il y a du braconnage. On n'est pas non plus chez les bisounours. Il y a du braconnage. Il y a toujours des gens, évidemment, qui vont faire des actes malveillants. Mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec la politique de tir systématique qu'on peut avoir ici. Et justement, j'ai rencontré des gens pour ce film, notamment en Alsace, dans l'est de la France, un maire extraordinaire qui, lui, était parti parce qu'ils avaient eu des attaques de loups avec des incursions, justement, de loups en Alsace. Et ce maire, qui s'appelle Thierry Siffer, était parti dans les Abruzzes avec des élus, tu croyais pas si bien dire, avec d'autres élus, avec des tas de gens, pour se renseigner. Et quand ils sont revenus, ils étaient complètement bluffés, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible, même si c'est pas simple. Enfin, je veux dire, moi, je dis pas, attention, je veux dire, je suis pas du côté, justement, bisounours, à dire, ouais, c'est les loups, c'est super. Non, le retour des loups a créé de vrais problèmes. Dans le monde de l'agriculture et de l'élevage et du pastoralisme, c'est une évidence, notamment ovin et aussi bovin, parce qu'ils se prennent aussi aux génisses et aux veaux. Et de ça, il faut pas le nier. Mais c'est quelque chose qui est plus ou moins accepté selon l'ouverture d'esprit qu'on a.
Alors, il y a aussi autre chose dans ton film qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est l'élevage des patous, la façon dont on éduque les patous.
Ben, je parle un peu des chiens. Enfin, c'est pas moi qui en parle. Hein, c'est les éleveurs et les bergers, surtout. Et en fait, c'est pas que les patous. C'est, on va dire, les chiens de protection en général. Hein, parce qu'il y a plein d'espèces. On dit patous, c'est le montade des Pyrénées. Mais il y a les kangals, les fameux bergers d'Anatolie. Il y a les transmontanos, qui sont des chiens du Portugal, les maremmes d'Espagne, des Abruzzes et autres. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, parce que je vois bien que le chien est une solution, mais c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le prochain défi, bon ben les loups sont là, on ne pourra plus les enlever, voilà, ça je pense qu'on peut l'acter, que tout le monde l'a acté, parce que tous les feux sont au vert, il y a beaucoup à bouffer, etc. Et ces chiens qui sont arrivés de façon finalement assez soudaine et qui ont été un petit peu vendus, parfois aussi un peu n'importe comment, parce que c'était une bonne opportunité avec les aides de l'État et autres, qui n'ont pas été forcément bien sélectionnés, avec des tas d'idées reçues, il faut pas que ces chiens soient sociables, parce que sinon ils défendent moins bien le troupeau, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a des tas de problèmes avec ces chiens.
Il y a une recrudescence de problèmes.
Il y a des problèmes avec les randonneurs, les vététistes, les trailers. Et puis moi, je suis désolé, ces chiens-là sont des chiens qui chassent. C'est-à-dire que quand vous allez sur des alpages où, pour protéger des loups, on met des chiens de protection qui vont attaquer les marmottes, qui vont bouffer des dizaines, voire des centaines de marmottes dans la saison, les chevreuils, des chamois, etc., ben, c'est un vrai problème aussi. Donc, justement, comme on disait au début, la complexité. On va pas dire, ouais, les chiens, c'est le paradis. Non, les chiens, ça marche, mais c'est compliqué. Et là-dessus, ben, j'ai des éleveurs qui se questionnent sur le sens, justement, profond, d'utiliser ces chiens qui sont pourtant très efficaces, mais qui ne sont pas sans incidence. Faut pas oublier qu'au jour où on parle aujourd'hui, on a à peu près 7000 chiens de protection dans les Alpes. Pour 1000, 1500 loups, peut-être 2000 loups, je sais pas, on n'a pas de chiffre exact, puis on s'en fiche des chiffres. Ce qui est important, c'est de savoir l'impact qu'ils ont sur les troupeaux, ces loups, évidemment, plutôt que les chiffres. Mais on a beaucoup de chiens, et ces chiens ne sont pas sans conséquence. Et évidemment, il y a aussi la coexistence avec les éleveurs, avec les autres usagers de la montagne. Et ça, on le soulève dans le film, mais on donne pas de solution, et on n'a pas envie d'en donner parce que c'est complexe, et parce que petit à petit, on se rend compte que ces chiens, ben, il faudra les sociabiliser beaucoup plus, il faudra peut-être moins de chiens, enfin voilà, tout ça est en train de se construire.
Mais c'est vrai que c'est un problème qui est devenu récurrent, les chiens de patrouille par rapport aux randonneurs. La cohabitation n'est pas qu'avec le loup et les éleveurs, maintenant c'est avec les randonneurs.
Ouais. Alors nous, on n'en parle pas trop dans le film, malheureusement, parce que sinon il aurait fallu qu'il dure trois heures, ce film. Moi, j'ai laissé les éleveurs et les bergers parler de ce dont ils avaient envie de parler. Ouais. Mais de façon sous-jacente, évidemment, on voit bien qu'il y a un problème de coexistence avec les autres usagers de la montagne. Alors il y a un comportement à avoir aussi avec ces chiens. Et puis il y a j'ai croisé des gens qui avaient vraiment réussi à dresser ces chiens de façon extraordinaire, c'est-à-dire des chiens très sociables, qui vous aboient après quand ils vous voient passer, mais qui après viennent en remuant la queue, en faisant beau pouf, et puis voilà. Et puis vous avez des chiens qui sont beaucoup plus agressifs, avec des gens qui se comportent mal, c'est-à-dire qui partent en courant, qui lèvent le bâton, ou qui leur mettent un coup de gaz là de bon poivre dans la figure, ce qui fait que chaque fois qu'ils voient un randonneur, pour eux, c'est un agresseur, donc ils sont agressifs. Une fois encore, tout ça est complexe, mais je pense que il peut y avoir des solutions à terme. Moi, ce qui me dérange le plus, en tant que naturaliste, c'est que ces chiens, ils chassent. Alors, vous voyez, par exemple, dans le parc des Écrins, vous n'avez pas le droit de vous balader avec votre caniche ou votre Yorkshire qui pèse 150 grammes en laisse. Vous avez une prune. Et puis, vous avez 200 chiens à droite à gauche avec des troupeaux qui vont bouffer en pleine zone cœur du parc des chevreuils, des marmottes et des chamois et autres. Et là, il y a peut-être un problème pour protéger de 4 loups, quoi, enfin, ou de 10 loups, de 100 loups, mais ça pose un problème.
Alors, on va faire une petite pause musicale, ça va nous ressourcer un petit peu, avec un morceau de la BO de ton troisième film que tu as bien voulu m'envoyer. Je crois qu'il y a des thèmes.
On a bossé, comme sur les deux films précédents, avec Armand Amar, qui a composé la musique du film. Et là, on s'est bien régalé. Je trouve que il a fait un très, très beau travail sur ce film-là. Et ça a été, pareil, un beau partage, un beau travail en commun pour sortir cette BO que je revendique. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est lui. Mais en tout cas, on était bien, bien d'accord et on s'est bien creusé la tête. Et le résultat me plaît beaucoup.
Bon, et elle s'accorde aux images et elle est faite à partir du montage, je suppose.
Elle est faite à partir du montage, bien sûr.
Ok. Alors, on écoute cette BO. Et en deuxième partie, on parlera un petit peu de ce qui se passe actuellement, des avant-premières et des festivals dans lesquels tu présentes ce film. Rebonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Jean-Michel Bertrand, toujours avec son troisième film « Vivre avec les loups ». On imagine que tu es en pleine promo de ce film. J'ai compris que tu avais fait déjà deux festivals.
Le festival Nature de Namur en Belgique, qui est un gros festival. Le festival de la Salamandre à Morges, à côté de Lausanne en Suisse. Et le festival de Ménigout. Ouais. Pas loin de Poitiers. Chaque fois, c'est des 700, 800, 1000. Là, à Ménigout, il y a plus de 1000 personnes dans la salle. Mais en fait, là, c'est pour un peu amorcer la pompe aussi. Et on a un public, dans ce cas-là, qui est vraiment un public acquis et qui va nous servir d'ambassadeur pour lancer le film qui sortira le 24 janvier au cinéma.
Ouais, ouais, ouais.
Mais moi, je commence à faire pas mal d'avant-premières. Il y en a une, là...
Le 22. Aux rencontres du Cinémathèque de Montagne.
Au Quattro, à 20h30. Alors, c'est pas trop la peine d'en faire de la pub parce que malheureusement, y a plus une seule place. C'est complet. Mais il faut savoir qu'il y aura une avant-première le 6 janvier au cinéma Le Palace à Gap. On fera des avant-premières à Saint-Bonnet aussi parce que Saint-Bonnet, c'est encore plus la maison, évidemment. Mais là, on a une belle salle, 1200 places. Et puis, il y a toute l'équipe du film qui vient. Il y a le producteur, il y a la monteuse avec qui on s'est bien cassé la tête pendant 4 mois pour monter ce film. Il y a l'ingénieur du Sion. Il y a des éleveurs, justement, et des bergers qui sont pas loin dans les Baronnies, dans les Manches, qui ont participé au film et qui viennent.
Tu peux en faire venir des Abruzzes, au moins un des Abruzzes.
Ça, on aurait bien aimé. Mais voilà, donc c'est un moment important, les rencontres de la Cinémathèque. Juste après les rencontres, là, je pars des semaines entières présenter le film à travers la France.
Alors évidemment, ces avant-premières sont suivies de débats. Hein. À chaque fois, tu vas discuter avec les gens.
Voilà, il y a toujours... le film dure 1h30, et en général, comme avec les films précédents, d'ailleurs, les débats durent le temps du film, voire plus.
Ok. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu du livre, parce que tu sors un livre en même temps que le film. Donc c'est un livre qui a été qualifié de somptueux, avec des récits profonds, qui nous interpellent en tout cas. Et tu m'as dit qu'il y avait principalement des images du film.
Le livre est vraiment un complément du film, il accompagne le film. Et on a eu envie cette fois justement de coller au film. Donc on s'est carrément, vu qu'aujourd'hui la technique évolue tellement qu'on peut servir des images cinéma en 4K pour en ressortir des photos, donc on a choisi beaucoup d'images, pas que, mais beaucoup d'images issues du film.
Et comment tu as fait le choix des images ?
Choix subjectif avec l'éditeur qui correspondent à ce qu'on raconte, etc. Avec toujours se couper un bras parce qu'on aimerait en mettre plus, mais c'est comme le film. Si on s'écoutait, il durerait 3 heures ou 4 heures. En revanche, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'il y a des éleveurs, enfin surtout un éleveur et une bergère qu'on avait interviewé, qu'on a voulu absolument mettre dans le film, et qui ne sont pas rentrés dans le film parce que ça cassait l'équilibre. Enfin, un film, c'est très délicat à ce que ça soit fluide et que ça soit pas trop lourd, trop long. Et donc, il y a ces deux personnes qui étaient hyper importantes pour moi, mais qu'on n'a jamais pu caser, et qui sont évidemment dans le livre. Du coup, le livre, ça permet aussi de faire intervenir ces gens-là, de les entendre, enfin de les lire, de lire ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, et ces rencontres complémentaires.
Et du coup, tu as tout un récit sur ces deux personnages.
Il y a ces deux personnages plus les autres.
Je me posais la question, évidemment, est-ce que tu as toujours le côté Graal, où tu as des heures d'attente comme tu faisais dans ton premier film pour L'Aigle ? Est-ce que tu as toujours ce côté en toi, même pour le troisième film, tu as continué à faire ce côté où tu attends indéfiniment que le loup vienne ?
Oui. Moi, c'est ma vie. C'est ma vie. J'y étais hier, j'y serai demain.
Je pensais qu'avec ton expérience, tu avais moins à attendre. Non.
J'ai toujours autant le bordel. Alors évidemment, il y a de plus en plus de gens qui voient des loups à droite à gauche parce qu'il y a de plus en plus de loups. Mais quand on veut les voir et les filmer, qu'on est là avec le matos et qu'on les attend, c'est toujours aussi compliqué. En revanche, j'ai pu en voir en voiture comme ça, pof, un loup qui passe, qui traverse, voilà. Mais c'est beaucoup moins. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je suis là et puis qu'il débarque. Et là, c'est le grand choc. Et il ne faut pas oublier que ce film, qui a pour thème la coexistence, a aussi une bonne partie, on va dire la moitié du film, c'est encore de l'immersion pour essayer de comprendre les interactions des loups entre eux aujourd'hui chez nous dans les Hautes-Alpes, au moment où tous les territoires sont occupés. Parce qu'il faut voir, moi je suis dans Champsaur, Dévoluy, Val-Guedemar, on est au taquet. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'aura pas plus de loups dans 30 ans que ce qu'on en a aujourd'hui. Tous les territoires sont aujourd'hui occupés. On a 6-7 meutes dans le Champsaur-Valgaud, et je compte pas le dévolu. Donc, ce qui m'a intéressé là, c'est de me mettre sur une des dernières meutes installées, au milieu, qui a trouvé un territoire au milieu des autres, un territoire disponible, et les interactions entre les meubles pour expliquer cette régulation des loups entre eux. Parce que pour moi, ça a toujours été mon credo total, c'est que les loups, il n'y a pas besoin de les réguler. C'est comme les renards. On en tue 600 000 de renards en France pour rien. Je veux dire, il y a toujours autant de renards. Et on oublie que les renards sont les premiers aides des agriculteurs en mangeant 90% de micro-mammifères. Donc c'est vraiment... Et les loups, c'est pareil. Tirer un loup, par exemple, évidemment, pour se défendre, parce qu'il va attaquer un troupeau, etc., de façon trop récurrente, moi, ça me pose aucun problème. Mais la volonté de régulation des loups, en tirant beaucoup de loups, etc., comme on le fait avec les renards, moi, je crois que ça va venir un peu comme ça. Les loups, on va en tirer de plus en plus, on en tue de plus en plus, et ils bouchent les trous. Quand on tire des loups, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Des trous se bouchent, donc on a des reproductions plus importantes, on a des dispersions de jeunes loups qu'on appelle je les appelle les loupards, les petits loups là partent, qui sont hyper opportunistes parce qu'ils sont pas adaptés pour chasser, parce qu'ils sont pas en nombre, donc ils vont aller au plus facile sur les animaux domestiques. Tout ça, je le raconte aussi dans le film. Donc on a aussi ce côté complètement immersif, et on continue à se questionner sur cette complexité des grands équilibres biologiques. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec ce nombre de loups plus important, non seulement la dispersion permet une régulation du nombre, mais il n'y a pas que ça. On se rend compte aujourd'hui qu'au niveau de la reproduction même et de la mise, de l'aboutissement, on va dire, de l'élevage des jeunes, eh ben, on a des problèmes parce qu'il y a une pression des autres loups. Donc tout ça est soulevé dans le film. On n'est pas qu'avec les humains.
Ok, mais en fait, la première cohabitation qui t'intéresse, c'est celle des loups entre eux.
Bah évidemment, hyper intéressant. Et ils ont à nous en apprendre. Parce que je veux dire, les loups, si soi-disant ils pullulaient et qu'ils bouffaient tout, bah, il y aurait bien longtemps qu'il n'y aurait plus rien à bouffer, parce qu'ils auraient tout mangé. La seule espèce sur Terre aujourd'hui qui est capable de consommer au-delà de ce dont il a besoin, et surtout de ce qui est disponible, c'est l'humain. Et moi, ça me fait vraiment doucement rigoler aujourd'hui quand j'entends des propos alarmistes en disant que les loups bouffent tout, vont tout détruire, etc., de la part de gens qui participent comme moi et comme toi à cette marée humaine qui est en train de bousiller complètement la planète.
Et on en revient toujours à ton principe, à ton idée de base, que le loup est opportuniste mais qu'il est hyper intelligent.
C'est clair.
Qu'on aimerait en prendre un petit peu pour nous, pour notre société.
Il est intelligent. De son intelligence. Alors c'est sûr qu'il est intelligent, puis il est programmé par ses équilibres biologiques pour justement ne pas trop taper dans la caisse et permettre aux ongulés de pouvoir être suffisamment nombreux pour le nourrir. Ça, c'est déjà énorme. Et puis il y a aussi ce côté, pourquoi le loup? Pourquoi est-ce qu'on est passionné par les loups? Pourquoi cet animal nous intrigue? Faut quand même pas oublier qu'il y a 15-20 000 ans, à l'époque du néolithique, les hommes ont commencé à apprivoiser des loups, et aujourd'hui, tous les chiens qu'on croise, tous, absolument tous, du plus petit au plus grand, sont les descendants directs des loups sauvages. Et cette relation intime que l'humain a avec le chien, eh bien, c'est peut-être pas un hasard, c'est qu'il y a un truc entre ce canidé et l'humain. Et le loup sauvage nous raconte, bon, lui, il est resté de l'autre côté, hein, il est resté du côté de la nature sauvage, mais il a des choses à nous raconter.
Bon, tu vas peut-être faire un peu peur aux auditeurs qui vont se prendre conscience que chaque animal domestique a une base de loup sauvage en lui.
Ouais, c'est clair, même bon. Le petit Yorkshire.
On va dire que ton deuxième film passe sur Arte en ce moment, jusqu'au 12 décembre.
Oui, Marche avec les loups passe sur Arte, voilà. Il est possible en replay de le voir, etc.
Ok, on va laisser aussi le site Facebook qui s'appelle « La quête du loup sauvage ».
Ouais, ou Jean-Michel Bertrand sur Facebook, La Quête du Loup Sauvage. Jean-Michel Bertrand, bon. On peut me trouver.
Voilà.
Et là-dessus, on met un peu l'actu, quoi. C'est-à-dire ce qui va se passer au niveau des avant-premières et autres.
Et puis aussi, moi, j'avais aimé sur le site salamandre.org. Il y a une petite partie qui est la Salamandre TV, sur laquelle il y a un petit doc sur toi qui explique ce qui se passait pendant ton montage, je crois.
Ouais. Il y avait une minute nature sympathique. Puis la Salamandre a toujours été partenaire de mes films, depuis Vertige d'une rencontre, depuis le film sur l'aigle, et on est toujours très proches.
Bon, écoute, merci Jean-Michel de veiller au grain, ou de moudre du grain pour une société plus harmonieuse, plus tolérante.
Il y a du boulot.
Allez, à bientôt alors.
Merci.